Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une émission Ensemble. Au micro, Marie-Louise Tron, à la technique, Claude Casal. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Guy Bouwer, qui vient nous parler de la confrérie du CEP et des fins d'hélice de la forêt de Senonche. Monsieur Guy Bouwer est le grand maître de cette confrérie et il va nous présenter cette belle association. Bonjour Monsieur Bouwer.
Bonjour Madame.
Alors, Monsieur Bouwer, vous avez beaucoup de choses à nous raconter sur cette association que vous avez créée en 2011. Donc expliquez-nous un petit peu comment vous avez créé cette association.
La confrérie du CEP de la forêt de Senonche fut créée en 2011 en association avec une vingtaine d'amis locaux sous l'égide de Monsieur le maire, Xavier Nicolas.
Et alors, vous aviez voulu faire quelque chose pour Senonche?
Parce que Senonche a un historique important sur la superficie de sa forêt, d'abord, parce que c'est une forêt de 5000 hectares,
oui.
Essentiellement chêne et hêtre, donc propice aux cèpes, aux champignons en général. Donc depuis, des millénaires certainement que les gens devaient cueillir des cèpes à l'époque. Hein, et puis il y a eu un rush après la guerre, dans les années 48 si vous voulez. Les gens trouvaient beaucoup de champignons et réussissaient à les vendre sur Paris et les Halles à l'époque.
Et alors, c'était une activité locale très, très ancienne, vous dites plusieurs centaines d'années, vous avez fait des recherches historiques?
Très certainement, parce que avant on n'en parlait pas beaucoup, mais vu les difficultés d'après-guerre, si vous voulez, c'était un apport supplémentaire de revenus. Mm. Les gens étaient pas très riches, Senonche était surtout une ville de forestiers, de petits paysans, donc c'était un plus pour eux.
Et ils faisaient un commerce de champignons?
Donc ils ont fait du commerce de champignons et on pouvait récolter en saison une trentaine de tonnes.
Donc les membres de votre association connaissent bien cette histoire aussi?
Ils sont tous chercheurs de champignons et amateurs de champignons.
Donc là, vos activités sont aussi en relation avec la cueillette des champignons locales?
Oui, parce que nous avons aussi créé des recettes à base de champignons. Nous avons la tourte senonchoise à base de gibier, puisque la forêt est quand même assez giboyeuse, et les cèpes. Donc nous pouvons commercialiser pour notre économie personnelle, pour l'association, de vendre des tourtes.
Ah, très bien. Donc, en fait, vous préparez des tourtes et vous les présentez dans des événements.
Absolument, oui. Nous les vendons dans des foires, des expositions. La dernière, c'était au château de Courboyer, où nous avons réuni les trois confréries du parc naturel du Perche.
Oui, parce que vous êtes donc une de ces associations gourmandes du Perche, donc parlez-nous-en un petit peu.
Voilà, alors il y avait le boudin de Mortagne, mm-hmm. qui est très connu, les tripes de Longny et les cèpes de la forêt de Senonche.
Très bien. Alors vous allez nous donner peut-être en fin d'émission la recette de la tourte de Senonche
vous
préparez.
Avec plaisir.
C'est votre ressource de fonctionnement.
Absolument.
Voilà. Et vous avez donc plusieurs cuisinières.
Disons que j'ai un petit peu de chance parce que mon fils est restaurateur à Senonche et ce qui me permet de me servir de son matériel pour cuisiner et cuire ses tourtes.
Très bien, mais alors au-delà de cette jolie préparation gustative, vous avez monté beaucoup de choses dans votre association, comme je crois votre costume.
Ah oui, alors notre costume, il a fallu évidemment chercher un costume qui se rapporte un petit peu aux champignons quand même. Donc, on a trouvé une cape une cape verdâtre, légèrement verdâtre, qui se rapporte aux feuilles un petit peu, à la végétation. On a ensuite un petit gilet doré garni de petits cèpes. C'est assez, comment dirais-je, c'est assez voyant.
Voilà.
Voilà. Et on termine par un petit chapeau melon qui rappelle la tête du petit cèpe, du petit bordelais.
Ah ben voilà. Donc, il faut aller vous voir, bien sûr, dans vos événements.
Voilà.
Vous les portez pendant toute la préparation de
toute la cérémonie du 22 septembre prochain. Nous serons en tenue pour toute la partie du chapitre, mais ce jour de festivité du 22 septembre attire également d'autres confréries qui viennent de France, de Belgique, et nous aurons, je pense, une quarantaine de confréries de tous horizons, mais confréries gastronomiques.
Ah, très bien.
Vineuse et classique, hein. Ça peut être l'andouillette, ça peut être le bœuf, ça peut être l'agneau, c'est le veau, c'est... voilà.
Beaucoup de choses là, voilà, auxquelles vous participez. Et Monsieur Bohard, vous organisez peut-être des cueillettes de champignons.
Effectivement, nous organisons des sorties... suivant la demande, j'ai tous les ans des gens qui m'appellent et qui me demandent s'ils peuvent sortir et si on peut les accompagner.
En fait, vous les guidez.
Parce que très souvent, ils disent, voilà, on ne connaît pas la forêt, est-ce que vous pouvez nous accompagner? Et on aimerait bien ramener un petit panier de champignons. Mmh. Alors, donc, nous organisons ces sorties. Et c'est souvent moi qui les accompagne d'ailleurs, parce que les gens travaillent ou ne sont pas disponibles. Mais il arrive fréquemment que l'on cueille des cèpes ensemble. Et
alors
donc
des
je
cèpes, mais que des cèpes ou
non,
beaucoup
alors,
de choses dans la forêt de Senonches?
Vous savez, quand c'est la période des champignons, tous les champignons poussent, hein, les vénéneux comme les bons.
Ah oui, ça, il faut les connaître.
Il faut faire très attention. Alors, en principe... Je ne fais ramasser que les champignons connus, girolle, trompette de la mort, chanterelle à tube, pied de mouton et cèpe. Voilà. En gros, c'est un peu les champignons que l'on trouve en forêt, hein,
oui,
comestibles.
Et alors, vous guidez aussi, justement, sur les comestibles, non comestibles,
hein? Disons qu'on indique aux gens ceux qui ne doivent pas cueillir. C'est ça le principal, parce que c'est trop dangereux.
Alors, comment vous faites-vous connaître des personnes qui veulent cueillir des champignons avec vous?
Alors, pour se faire connaître, déjà, nous sommes inscrits à une ambassade.
Ah.
Une ambassade, il y a des ambassades régionales, et vous avez la nationale. Donc, on paye une cotisation, et... Si vous voulez, toutes les confréries sont répertoriées sur la France entière. Et vous cliquez sur votre ordinateur « Ambassade des confréries » et vous avez toutes les confréries qui s'affichent.
Ah.
Voilà le pour se faire connaître, si vous voulez. Hein.
Voilà.
Donc, on a des liens comme cela. Et lorsque nous organisons un chapitre...
Nous prenons
le lien et on envoie des invitations aux confréries, amis, si vous voulez, et puis un certain nombre répondent, d'autres ne répondent pas, mais tout le monde ne peut pas venir, évidemment.
Bien sûr, mais...
Et on organise des échanges. Quand nous organisons un chapitre, un certain nombre de confréries viennent à notre chapitre, et lorsqu'eux organisent leur chapitre, nous allons à leur chapitre. Voilà. Les
très
échanges
bien
se font comme ça, si vous voulez. Hein. Voilà.
Voilà.
Donc ça crée, si vous voulez, des liens, c'est d'amitié.
Et c'est comme ça que vous avez ce bel événement.
Absolument.
De septembre,
voilà,
qui réunit donc...
Un certain nombre de confréries.
Voilà.
Voilà. Et donc, on crée des liens. On a des amis un peu partout maintenant, sur tout l'Hexagone, hein, même à l'extérieur, parce que je suis allé à Madère, au Portugal, en Belgique, promouvoir notre confrérie. Et je peux vous dire que c'est festif. C'est tellement festif qu'on est reçu par les ambassadeurs, par les gouverneurs, dans des lieux assez extraordinaires, dans des palais, dans des...
C'est bien ça, mais alors là, vous êtes dans la tradition des confréries...
Voilà, c'est la tradition des confréries du Moyen-Âge, si vous voulez. Hein.
Voilà, vous pouvez peut-être nous en parler un peu.
Eh bien, les confréries du Moyen-Âge, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, c'était les confréries appartenaient à un seigneur. Et rapidement, les bourgeois des villes ressentent le désir de s'organiser et de prendre en main les destinées de leur cité. Et donc, pas avec le biais du clergé, puisque le clergé, c'était quand même aussi la chose principale dans les campagnes et dans les villes.
Notamment. La vie sociale.
Donc, si vous voulez, c'est parti du Moyen-Âge, hein, l'histoire des confréries. Et puis, ça s'est éteint. Ça s'est éteint un petit peu avant la Révolution. Et ça a repris de l'ampleur après la guerre de 45, hein, en 48, si vous voulez. Et la première des confréries qui a été recomposée, c'était la confrérie du Saint-Émilion.
Ah!
Voilà, donc à la suite, si vous voulez, bon, tout s'est enchaîné, et puis à l'heure actuelle, on dénombre environ 800 confréries en France.
Voilà.
Dans tous les domaines, hein, surtout gastronomiques évidemment, et vineux. Les vignes énormément, parce qu'on a quand même...
C'est notre patrimoine.
Le patrimoine national, si vous voulez, hein, voilà.
Très bien.
Et puis c'est aussi le bien manger.
Voilà.
Voilà. À chaque fois que nous sommes reçus dans un chapitre, une confrérie, qu'elle soit dans les Pyrénées ou en Alsace, le repas est festif. C'est toujours des produits de qualité avec des vins qui vont avec.
Bien sûr.
Voilà.
Et donc, c'est tout ça que vous présentez dans vos événements locaux.
C'est ce que je présente dans nos événements. Voilà, exactement. Maintenant, je pourrais parler aussi des intronisations.
Bien sûr.
Parce que là, le 22 septembre, nous avons notre chapitre et nous avons un certain nombre de personnes que nous allons introniser. Et nous avons souvent le préfet, le maire, un maire de la région, des conseillers généraux, des élus en général. Et nous intronisons également des amis de confrérie qui n'ont jamais été intronisés chez nous.
Bien sûr.
Voilà.
Et tout ça, donc, vous le faites partager aux Senonchois et à la région.
Les Senonchois et aux alentours. Hein,
bien sûr.
Voilà, oui. C'est un événement local, mais important.
Eh bien, Monsieur Boer, vous nous avez déjà bien présenté votre association, votre confrérie du CEP et des fins d'hélices de la forêt de Senonches. Nous allons marquer une pause musicale. Retrouvons Monsieur Boer, grand maître de la confrérie du CEP et des fins d'hélices de la forêt de Senonches. Monsieur Boer, vous nous avez parlé des activités de votre confrérie. Alors, parlez-nous un petit peu de la tradition des confréries.
Alors oui, la tradition du CEP à Senonches. Je vais vous conter une petite histoire qui s'est passée dans les années 50 à peu près. Hein. Alors je vous lis, je vous raconte. Donc c'est la personne qui parle. J'ai commencé à aller aux champignons pour les vendre à l'âge de 5 ans. À ce moment-là, on s'achetait de quoi faire la rentrée scolaire, ce qui faisait un revenu supplémentaire. Le tablier, le cartable, les cahiers, c'était une vraie ressource dans le pays, nous explique Paul Alexandre, agrégé d'histoire, président du groupe d'histoire. Il y a 30 ans, en compagnie de Pierre Chailloux, il a interviewé Solange Rocher, marchande de champignons et de primeurs depuis 1938. Voici un résumé de ce document. En 61, ils ont fait 45 tonnes de cèpes, ce qui, ajouté à ceux des autres collègues, représente pour Senonches une production de 80 tonnes environ. Comment cela se passait-il? Là, devant, à côté du magasin, il y avait une animation extraordinaire. Phénoménale. Vous ne pouviez pas passer. Un énorme tas de champignons, absolument une montagne. Les ramasseurs arrivaient. On nous livrait par tous les moyens possibles. Ça arrivait de tous les côtés, avec des paniers, des brouettes, des landaus, et même un tricycle, se souvient Madame Rocher. Il y en avait un grand qui venait avec une hotte, comme une hotte de Père Noël, toujours pleine de champignons. Nous aussi, il fallait trier les champignons. Nous étions des gens très difficiles, parce que le cep est, avec le rosé des prés, le champignon le plus désagréable à traiter. Il ne se conserve pas. 1 kilo de cep, s'il est mouillé, vous perd 100 grammes dans la nuit. Et puis, on les mettait en cageot. Quel travail! En 61, on faisait 6 à 800 kilos par jour. Et en 61, on a fait 45 tonnes de cep, ce qui, ajouté à ceux des autres collègues, représente pour Senonches une production de 80 tonnes pour la saison. C'était fabuleux. Ils expédiaient par camion, par train, par wagon, parce qu'il y avait le chemin de fer à Senonches à l'époque.
Oui.
Alors, cette dame dit « Je me suis marié en 1938 et on voyait l'heure qu'on n'allait pas pouvoir se marier tellement il y avait de champignons. On n'avait pas le temps. Alors, vos cèpes, vous les expédiez où? Aux Halles centrales. Les champignons que nous ramassions jusqu'à 8 heures du soir, ils étaient aux Halles à 1 heure du matin, et à 2 ou 3 heures, ils étaient vendus. Ou pas vendus. Et c'était expédié comment? Les cèpes partaient, comme je viens de le dire, par wagon entier, mais aussi par camion. Quand il y en avait de trop grosses quantités, on mettait une centaine de cageots dans la camionnette. Notre corps a été de 5 tonnes en 3 jours. Assez fabuleux quand même.
Ben oui, c'est fabuleux. Et aujourd'hui, c'est...
À l'heure actuelle, on le sait moins parce que les gens ramassent les champignons, les mettent dans leur panier, ne disent pas combien ils en récoltent. C'est plus anonyme.
Oui.
À l'époque, c'était du commerce. Et j'ai l'aspect économique du CEP. Pour nous, la rentrée scolaire, ce n'était pas la joie. On aimait bien l'école, c'est vrai. Mais à chaque fois, on était en pleine saison des cèpes. Et comme il n'était pas question de manquer l'école, on abandonnait la cueillette. C'était une perte d'argent et une perte de plaisir. Les champignons, ça permettait aux ramasseurs de Senonches de passer un hiver plus agréable. Certains faisaient de vraies moissons de champignons et en profitaient pour se payer ceci ou cela. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était les premiers frigos, les premiers réfrigérateurs, les premières machines, les premiers aspirateurs, donc c'était quand même un plus. On disait chez nous que c'était la seconde moisson. Étant gamin, on y allait pour gagner de l'argent. Mon père était ouvrier agricole et lorsqu'il arrivait de la saison des cèpes, il quittait son travail, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il se mettait en arrêt de maladie et ils allaient aux champignons.
Ah, voilà.
Et ça faisait un complément par rapport au salaire. Pour lui, c'était aussi important de ramasser les cèpes que de faire la moisson ou de biner les betteraves. En une saison de cèpes, 3 semaines, 1 mois, il gagnait plus que dans sa moisson.
Ah.
Voilà. Je sais que mon père a gagné en une saison de quoi s'acheter tout le matériel pour faire le cidre. À l'époque, évidemment, dans toutes les fermes, on faisait du cidre. Hein, il y avait des pommiers partout.
Eh oui.
Pressoir, mâcheux, tonneau et les pommes. Et je sais que mon oncle a dû gagner en une saison de quoi s'acheter une machine à coudre. Ces sources-là faisaient un apport d'argent important, une vraie ressource dans le pays. Je me souviens d'une véritable association avec M. Millard de la Framboisière, qui était le seul à avoir un vélo. Mon père, ma mère et mon oncle restaient en forêt. Ils ramassaient des champignons. Et M. Millard fait continuellement le trajet. Il amenait à chaque fois 3 cajots sur son vélo et retournait en forêt où mes parents et mon oncle lui donnaient le résultat de leur cueillette. Et il repartait. Et pendant toute la saison, comme ça, il faisait le charroyeur. Voilà, voilà une petite histoire,
une belle histoire
des champignons de Selonche.
Une belle histoire.
Voilà.
Et vous avez une autre belle histoire de confrérie à nous raconter, monsieur Bauer?
Oui, j'ai des histoires de gens qui se perdent en forêt.
Ah, ben voilà.
Qui se retrouvent à l'autre bout, pensant partir à l'ouest, ils se retrouvent à l'est.
Heureusement que vous êtes là pour les guider.
Oui, dans la forêt, tous les chemins se ressemblent.
Ouais.
Les lignes se ressemblent, tout est à peu près uniforme.
Surtout que c'est une grande forêt, la forêt de Selonche.
Voilà, si vous n'avez pas de boussole, vous pouvez vous perdre.
Combien d'hectares?
5000 hectares. 5000 hectares sur à peu près 5000 hectares, hein, pas tout à fait 5000 hectares. Mais si on compte les bois avoisinants, c'est phénoménal la région, là, parce qu'on part de Bois-Landry qui est situé sur Champron-Gâtine, c'est le début de la forêt, et on peut quitter après Longny-au-Perche, hein, sans quitter la forêt. Hein. Vous restez en forêt, elle est moins large à certains endroits, mais c'est toujours la forêt, c'est toujours le massif forestier.
Et c'est une richesse que vous expliquez comment. Vous parliez de ressources dans cette forêt de longue date, hein.
Ah oui, ça remonte à la nuit des temps. Certainement que les gens, à l'époque, gardaient les champignons pour eux. Il n'y avait pas de commerce à l'époque, hein, avant-guerre. Et puis, il n'y avait pas non plus la voiture, il n'y avait pas... Les transports étaient difficiles. Hein,
Oui, mais c'était une région à ressources.
Oui, c'était important pour l'époque, oui. Le mois de septembre était un mois très important pour les ressources.
Eh bien, Monsieur Bauer... Peut-être pouvez-vous nous donner votre recette des fameuses tourtes que vous présentez dans vos événements?
Ah bien, écoutez, avec plaisir. Donc, là-bas, c'est le feuilletage. Vous prenez une feuille de feuilletage. Vous faites, vous taillez 20 cm sur 20 cm dans votre plaque de feuilletage. Vous préparez une farce. Alors, en l'occurrence, chez nous, en forêt de Selonche, nous avons beaucoup de gibier et notamment beaucoup de sangliers. Mm-hmm. Donc, on fait une farce de sangliers mélangée avec 50% de farce de porc et de sangliers. Et on incorpore à cette farce des légumes broyés, si vous voulez, que l'on fait revenir avec des oignons. Les légumes, on utilise souvent céleri, carottes, oignons, poireaux, que l'on broie, que l'on fait revenir, que l'on fait suer. Hein.
Oui.
Ensuite, on mélange à la farce avec des œufs. Mm-hmm. On termine avec de la crème fraîche, assaisonnement.
Très
riche.
Et
donc, on mélange le tout. Vous garnissez l'intérieur de votre pièce de feuilletage, vous la mettez au milieu, vous l'étalez un petit peu, vous recouvrez d'une deuxième feuille, vous dorez, vous piquetez, vous passez au four à 180 degrés et vous avez une belle tourte.
Et vous lui donnez une forme particulière?
Non, mais j'ai surtout oublié de vous dire qu'on y incorpore des cèpes.
Ah, bah oui, mais là,
je vous ai parlé de la farce, je n'ai pas parlé des cèpes.
Vous nous avez dit que c'était une farce, donc...
N'oubliez pas les cèpes.
On avait bien compris que les cèpes étaient là.
Les cèpes rissolés. On doit rissoler les cèpes. C'est la meilleure façon de déguster les cèpes. Ils doivent toujours être bien rissolés.
Vous la dorez aussi?
Un petit peu d'huile. Ensuite, on dore évidemment la tourte. On la strie un petit peu avec un couteau. Et on passe au four à 180 degrés à peu près.
Très bien.
Voilà, et bonne dégustation.
Voilà. Et par exemple, pour vos événements, vous en préparez beaucoup
Eh bien, écoutez, pour notre chapitre, je vais en préparer 70 à 80, à peu près. Parce que les confréries qui vont nous rendre visite achètent tous
bien
pratiquement
sûr.
Des tourtes.
C'est le meilleur souvenir.
Ils repartent avec des tourtes, voilà. Mmh. C'est l'activité principale de nos ressources aussi.
Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la préparation des cèpes en eux-mêmes ?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs façons de préparer les cèpes. Donc, lorsque vous avez cueilli vos cèpes, vous pouvez les cuisiner sur le champ, en les lavant, en les grattant un petit peu, mais ne pas les éplucher. Hein. On n'épluche pas la tête du cèpe. Hein. On les émince, une poêle avec une goutte d'huile dans le fond de la poêle. Vous émincez bien vos cèpes frais et vous les faites rissoler dans cette poêle lorsque vous avez besoin de les déguster pour le repas qui va venir.
Bien sûr.
Et puis vous avez une petite recette, vous pouvez faire rissoler des cèpes, vous faites une petite salade, des petits lardons fumés que vous faites rissoler également, et vous versez le tout sur votre salade, vous fait une entrée parfaite. Vous avez une deuxième recette.
Oui.
Vous avez le cèpe brut. Vous le lavez. Vous le coupez en quartier. Vous le mettez en bocaux ou en bocal. Et vous le faites stériliser.
D'accord.
Alors, dans le stérilisateur, vous mettez de l'eau à hauteur, une petite pincée de sel. Et vous faites bouillir 2 heures. Voilà, ça c'est une deuxième recette. Et vous avez une troisième, c'est le cèpe en morceaux blanchi, égoutté et rafraîchi. Vous mettez dans des poches au congélateur.
Ah, voilà. Intéressant.
Donc,
ça. Mais quand on a fait une grande récolte.
Moi j'opte plus pour la façon stérilisation parce qu'on en dispose de suite.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
que vous avez des amis qui arrivent. Vous leur faites une petite entrée au cèpe, vous n'allez pas vous amuser à décongeler votre paquet de cèpe, donc vous ouvrez votre bocal et vous en disposez de suite. Voilà les façons de travailler champignons.
Très bien. Alors donc, vous avez plein de bonnes choses à raconter, expliquer, à montrer à toutes les personnes qui peuvent vous contacter. Vous avez un guide des associations, je crois, à ce nom. C'est là qu'on peut trouver vos coordonnées.
Ah, voilà.
Puis vous avez dit aussi, vous avez le site des confréries.
Oui,
donc,
je vais vous donner le site des confréries. C'est confrérie CEP Senonge d'un seul tenant .fr.
Très bien. Ben, écoutez, Monsieur Guy Bauer, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission sur cette confrérie gourmande, la confrérie du cèpe et des fins délices de la forêt de Senonche.
Eh bien écoutez, je vous remercie.
Au revoir Monsieur Bauer.
Merci de m'avoir accueilli.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site www.radiograndciel.fr. Thank you.